Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vient découper en termes programmatiques et aussi en termes formels, donc architectural et urbain, ces grands espaces, ces grandes nappes posées sur des parkings que sont les centres commerciaux.
Nouveau territoire, le podcast, pour comprendre ce qui se passe au cœur des territoires.
Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique, nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer? Quel nouveau cadre pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former? Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir de recevoir Sophia Verguin.
Bonjour Jean.
Bonjour Sophia.
Merci de m'avoir invitée sur ce podcast.
Alors, tu inaugures avec moi ce nouveau podcast, j'en suis ravi. Alors, tu es architecte, doctorante dans deux laboratoires au CERILAC, le Centre d'études et de recherche Lettres, Arts, Cinéma, et au laboratoire ESO Le Mans, Espace et Société. Et tu es en train de réaliser une thèse qui s'intitule « Le centre commercial de demain, une centralité en devenir, shopping, chopping mall, la nouvelle fabrique de la cité », sous la direction d'Arnaud Gagné, qui est géographe, et Paolo Amaldi, qui est architecte. Alors, c'est une thèse un petit peu particulière. Dans le langage commun des chercheurs, on dit que c'est une thèse chiffre. C'est quoi au juste une thèse chiffre ?
Alors, le terme CIFRE, en fait, ça désigne une convention industrielle de formation par la recherche qui est portée par l'Association nationale de la recherche et la technologie et qui est un partenariat qui existe entre une entreprise et un ou des laboratoires. Et donc, le but, c'est d'avoir un alliage très fort entre pratique et recherche.
Et cette entreprise, c'est une agence d'architecture, donc c'est une thèse très opérationnelle.
Oui, tout à fait. Une agence d'architecture, d'urbanisme, de paysage et d'architecture intérieure, Arte Charpentier.
Alors, on a l'habitude de parler de thèses en mathématiques, en histoire, en économie, en architecture, un peu moins. Qu'est-ce que ça signifie de faire de la recherche en architecture ?
Alors, le doctorat en architecture et la recherche, en tout cas en France, c'est quelque chose qui arrivait de manière assez récente, puisque le doctorat en architecture existe depuis 2005. Donc, on emprunte beaucoup à de nombreuses disciplines. Donc, il y a une logique vraiment transdisciplinaire. Et puis, on s'inscrit dans une logique qui vient de la loi de 77 sur l'architecture et qui décrit la création architecturale d'intérêt public. Donc, il y a ces deux notions-là qui sont très importantes, la transdisciplinaire et l'intérêt public de l'architecture. Moi, je m'inscris dans ces deux domaines.
Alors, avec toi, nous allons évoquer l'avenir du centre commercial. Alors, autant dire que le centre commercial vit aujourd'hui une période un peu de mutation, de transition. Alors, déjà, plantons un petit peu le décor. En quelle année est apparu le premier centre commercial ?
Alors, les centres commerciaux, en fait, existent depuis les années 50 et ont été notamment fondés par une figure importante qui était un architecte autrichien immigré aux États-Unis, qui est Victor Grün, et qui a mis en place un certain type de shopping mall qui était à la base multiprogrammatique, donc avec du commerce, mais avec des espaces de danse, type discothèque, espaces culturels, etc. Et justement, il re-questionnait des formes de centralité. Donc voilà, les années 50, et après, ça a été importé en France dans les années...
En quelle année, oui, justement ?
Dans les années 70-80, voilà, fin des années 70 à peu près.
C'est notamment le Parlis 2, c'est ça ? Au Chesnay, en
voilà,
région parisienne ?
Voilà, tout à fait.
Et le Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, c'est ça ? Je ne me trompe pas ?
Exactement.
Alors, combien il y a de centres commerciaux en France ? Juste un repère comme ça ?
Actuellement, on peut en dénombrer 835. Il y a aussi des parcs d'activités commerciales, retail parks, et là, on en a à peu près 600 environ.
On peut se poser la question, est-ce que les centres commerciaux ne sont pas voués à disparaître avec la part de l'e-commerce qui bouscule un peu l'avenir des centres commerciaux ?
Je ne crois pas, parce que je pense qu'on est dans... Alors ça, c'est une logique qu'on appelle la logique de déterritorialisation, qui a notamment été conceptualisée par Pascal Madry et qui, justement, conceptualise cette notion de distanciation des firmes commerciales des territoires. Mais il y a aussi un processus inverse, qui est la re-territorialisation.
On en reparlera.
Et qui a pour but, justement, de recomposer avec le territoire. Donc je pense qu'il y a de nouveaux mécanismes qui se mettent en place. Et je ne suis pas sûre que l'e-commerce soit la fin du commerce.
Ta thèse s'inscrit notamment dans une actualité avec le projet de loi climat et résilience dont on débat aujourd'hui à l'heure où on enregistre ce podcast. Dans ce projet de loi, il est question des centres commerciaux et plus exactement de la lutte contre l'artificialisation des sols. Qu'est-ce qui joue dans ce projet de loi pour les centres commerciaux ?
Effectivement, il y a une notion très importante, hein, cette notion d'artificialisation des sols, qui est de dire qu'en fait, on ne peut plus transformer des terrains de pleine terre en terrains à construire. Et donc, on met en place un concept qui est le zéro artificialisation net des sols, qui a un horizon à atteindre avec des logiques compensatoires. Et il y a un article, qui est l'article 52 de ce projet de loi, qui dit qu'on ne pourra plus construire en artificialisant des sols, des surfaces commerciales de plus de 10 000 m². Donc ça, potentiellement, ça va vraiment reformater le paysage urbain qu'on va trouver en France et recomposer le rôle des architectes et des urbanistes.
Alors, quand on parle d'artificialisation, moi j'ai tout de suite le projet d'Europa City qui me vient en tête. Alors c'est ce fameux méga-complexe de loisirs et de commerce qui était censé ouvrir en 2027 et que le président de la République donc, a annulé en novembre 2019. C'était un immense espace, 15 km donc, dans le Val d'Oise, les fameuses triangles de Gonesse. C'était bien cet enjeu d'artificialisation qui se jouait là, dans ce projet-là ?
Oui, tout à fait. En fait, là, on était sur du terrain agricole, donc qui allait être en construction neuve avec du multiprogramme, des parcs d'activités, du centre commercial, etc. Mais effectivement, à mon avis, ça a été vraiment le levier et aussi le second levier qui a fait en sorte qu'il y ait un arrêt de ce projet, c'est l'aspect pharaonique de ce type de projet actuellement qui paraît complètement en décalage avec les enjeux écologiques actuels.
Alors, commençons par le commençant, si je puis dire. Qu'est-ce qu'un centre commercial, Sophia ? Il y a une définition précise, j'imagine ?
Oui, le Conseil national des centres commerciaux le définit comme un ensemble, donc géré comme une entité, avec au moins 20 magasins et une surface minimale de 5000 m².
Le centre commercial a des noms différents, a des concepts différents. On parle à la fois de grands magasins, de grandes surfaces, de super hypermarchés, de rues marchandes, de passages couverts. Ce n'est pas évident de définir un peu tous ces ensembles.
Tout à fait, et ça fait partie de la première partie de ma thèse qui est d'identifier, on va dire, ces typologies qu'on peut avoir. Est-ce qu'elles sont ou non en lien avec la sémantique qu'elles raccordent ? Ce n'est pas toujours le cas. Et aussi, moi, ça me permet de creuser et de définir formellement ce que sont ces espaces commerciaux, même si moi, je m'intéresse plus particulièrement aux centres commerciaux.
Il y a aussi la problématique des centres commerciaux dans les gares, qui est aussi particulière, qui se développe de plus en plus. Il y a eu cette polémique avec la rénovation et l'agrandissement du centre commercial à la gare du Nord. Là aussi, qu'est-ce qui se joue ? C'est quoi l'enjeu ? C'est aussi une notion d'espace public, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors là, c'était vraiment un débat très intéressant qu'il y a eu avec un certain nombre d'architectes. Il y a une sorte de levée de bouclier contre ce projet-là. Et ces architectes démontraient le fait que on était dans une approche plus labyrinthique, on va dire, c'est-à-dire que le projet amenait le chaland à se déplacer de manière moins directe jusqu'au quai de gare et aussi que ça empiétait en fait sur l'espace semi-public et l'espace d'attente. Donc là, il y a un élément qui est très intéressant. Après, c'est intéressant aussi de voir le point de vue des architectes qui font le projet actuellement, qui sont Valo des Pistres, qui eux mettent en balance les surfaces commerciales prônées et réalisées avec le flux existant. Et disent, mais en fait, prenons par exemple la gare d'Austerlitz ou la gare Montparnasse, il y a déjà des surfaces commerciales en grand nombre, et si on la rapporte au flux, c'est minime par rapport à ce qu'on va faire à la gare du Nord. Donc voilà, je trouve que ces démarches sont assez intéressantes. Après, il y a une particularité de la gare qui est que le flux est déjà existant. Donc c'est très spécifique et moi, c'est pour ça que c'est une typologie qui m'intéresse, mais celle qui me paraît la plus créatrice ou génératrice de projets, c'est le périurbain. Parce que là, ça pose d'autres questions, qui sont notamment des questions de centralité.
Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de centres commerciaux qui se construisent aujourd'hui ?
Il y en a, en France, à l'étranger, et je pense qu'il y en aura toujours, mais avec de nouvelles formes et justement des logiques peut-être de diffusion et d'autres types de logiques, et notamment ce projet de loi climat qui remet en cause et en question les typologies qu'on va pouvoir réaliser.
C'est-à-dire qu'on aura moins de centres commerciaux dans le périurbain ?
Est-ce qu'on en créera moins dans le périurbain ? Je pense qu'on fera plus. D'ailleurs, je pense qu'on est plus sur ce type de démarche-là, de faire la ville sur la ville. Donc déjà, de capter des flux déjà existants, les logiques justement de centres commerciaux dans les gares ou d'espaces multiprogrammatiques. Je ne sais pas, pour donner un seul exemple, Morlan Mixité, à côté de la Seine, fait par David Schipperfield et l'agence Calque, par exemple. Donc je pense qu'on va être plus sur ce type de dispositif.
Je redis le nom, le sujet de ta thèse, hein, le centre commercial de demain, une centralité en devenir, point d'interrogation, shopping mall, la nouvelle fabrique de la cité. Qu'est-ce que tu as voulu signifier avec ce jeune mot shopping?
Alors, pas mal de choses, en fait. La première, c'était un clin d'œil à l'analyse que fait Barthes dans son livre SZ. Et puis, il y avait aussi cette notion de découpage. To chop, c'est le fait de couper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on vient découper, en termes programmatiques et aussi en termes formels, donc architectural et urbain, ces grands espaces, ces grandes nappes posées sur des parkings que sont les centres commerciaux.
Il y a Fabrique de la Cité aussi, dans l'intitulé de ta thèse. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Pour moi, ça part d'un constat. Le constat est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville actuelle, la ville dense, on a déjà des logiques multiprogrammatiques avec des systèmes de strates très organisés, et que ce soit dans l'existant, donc en réhabilitation par exemple, ou que ce soit en construction neuve. Mais comment fait-on pour créer, pour fabriquer cette ville lorsqu'elle est presque hors sol, lorsqu'elle est dans le périurbain, sur du monofonctionnel, souvent d'ailleurs un monofonctionnel qui a été rattrapé par la ville. On voit que ces poches qui ont été créées dans les années 70-80 viennent maintenant être rattrapées par de l'habitation, par exemple. Et donc, est-ce qu'on peut, et si oui, comment, et ça c'est mon rôle en tout cas en tant qu'architecte, créer ces modifications et ces potentialités programmatiques.
C'est un axe de recherche important donc, dans ta thèse sur donc, cette question de centralité. Avec cette question que tu poses, hein, s'agit-il de faire rentrer la ville dans le centre commercial ou de dissoudre le centre commercial dans la ville ?
La question de la centralité est inhérente au type de projet dans lequel, sur lequel je travaille, puisque en fait, c'est toujours la logique du flux et de l'aspect multimodalité, par exemple, qui est essentiel en fait, dans ce type de dispositif, puisque s'il n'y a pas de flux, le commerce ne fonctionne pas. C'est ce qui arrive en France de manière très récurrente. On a des problèmes de vacances commerciales, donc de boutiques vides sur des centres commerciaux à grande échelle qui sont dus à l'e-commerce et qui sont dus aussi parfois à des questions d'accès au flux.
Dans ton travail, tu questionnes le positionnement des centres commerciaux dans leur rapport au paysage, qu'il soit économique, législatif, aménagé, spatial. Et tu parles à ce sujet du concept de déterritorialisation. Ça veut dire que pendant des années, c'est ça, les firmes commerciales se sont affranchies du territoire complètement ?
Disons qu'il y a eu un mouvement vers ce type de dispositif qu'on voit maintenant être contrebalancé, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, et on voit des commerces en ligne créer des espaces, souvent des espaces éphémères, mais pas que, et donc recréer du commerce physique. Donc voilà, ce sont des dynamismes en balance, on va dire, et qui sont reliés l'un à l'autre.
C'est de l'hybridation urbaine. Hein,
voilà.
Ça. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Pour moi, alors là, c'est vraiment pour revenir sur cet aspect, comment générer à partir d'espaces monofonctionnels de la diversité, donc en prenant en compte ce qui fait la ville. Il y a une auteure que j'aime beaucoup, sur laquelle j'aime bien m'appuyer, qui a un bagage de journaliste, qui n'était pas architecte au départ, qui est Jane Jacobs, qui a écrit un livre qui s'appelle « Death and Life of Great American Cities » et qui évoque justement qu'est-ce qui fait la ville et qu'est-ce qui fait la rue. Et elle va s'intéresser notamment à la rue. Elle va parler du voisinage et comment on crée, en fait, aussi par les usages, des formes de ville. Et ça, c'est des éléments qui me sont chers et que je trouve très intéressants à intégrer dans des dispositifs de projet.
Marc Auger, l'anthropologue et l'ethnologue, parlait de non-lieu. Aujourd'hui, donc, il s'agit de recréer vraiment des lieux de vie complet.
Lorsque Marc Auger évoquait ce terme-là, c'était aussi pour parler de la notion d'anonymat qu'on pouvait ressentir en tant qu'être humain dans des espaces qui étaient potentiellement reproductibles, qui se ressemblaient, un peu l'image qu'on a de Tati, par exemple, qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, c'est quand même une question qui est cette notion de centre commercial comme non-lieu qui est un petit peu remise en cause parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une vie sociale, qu'il y a toute une vie assez riche en fait dans ces centres commerciaux, notamment pour les personnes âgées, notamment pour des jeunes. Donc il y a des potentialités et des choses à créer à partir de l'existant dans ces centres. Donc cette notion d'usage, elle est aussi importante, de l'usage existant dans ces centres.
Alors, tu l'as dit, tu es architecte, donc tu réalises cette thèse dans le cadre d'une agence, dans une agence d'architecture. Et donc, l'aspect de la qualité architecturale est aussi très prégnante dans ton travail. Qu'est-ce que tu entends par qualité architecturale? C'est aussi un nouvel enjeu là, pour les centres commerciaux.
Donc, la qualité architecturale, pour moi, elle passe par la qualité de la lumière, de l'apport de la lumière, des entrées, du rapport intérieur-extérieur, toute une série en fait, d'éléments et qui vont jusqu'au détail. Hein, parce qu'en tant qu'architecte, c'est très important pour nous d'aller jusqu'au détail et jusqu'au dessin vraiment du fin. Donc, il y a de la qualité architecturale dans des bâtiments de centres commerciaux existants et c'est toujours intéressant de pouvoir le révéler pour choisir aussi ce qu'on met ou non en avant. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des projets aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, où on réhabilite complètement des centres existants pour en faire du logement, par exemple, et on garde vraiment la structure et la peau première de l'édifice.
Tu m'as dit aussi, un des enjeux, c'est comment renouveler ces espaces en tant que maîtrise d'œuvre et côté projet, quoi.
Tout à fait, puisque là, nous, on se positionne, on va dire, à la croisée entre les attentes de la maîtrise d'ouvrage, entre des enjeux économiques, des enjeux de respect du planning qui sont très importants dans ce type de programme. C'est comment redonner de la qualité architecturale en prenant en compte ces différentes données qui sont essentielles pour faire du projet en architecture et être reliées aussi à des besoins réels.
L'architecte avait été un peu délaissé dans ses constructions de centres commerciaux. Aujourd'hui, il essaye de se réapproprier justement un peu cette qualité architecturale.
Oui, on peut dire que le commerce est par exemple très peu enseigné à mon sens, je pense en tout cas dans les écoles d'architecture, pour un certain nombre de raisons. Et donc c'est assez intéressant de s'emparer d'un sujet comme ça qui semble à premier abord délaissé pour essayer de révéler des qualités. Bon, après on a un certain nombre de grands architectes qui ont traité de ce type de sujet. Hein. On a Oma avec Rem Koolhaas, on a Sana avec la Samaritaine qui vient d'ouvrir. Voilà, donc c'est quand même un sujet qui est porteur en tout cas pour les architectes.
Tu parles de la Samaritaine, il vient d'être inauguré. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Il est dans cette résilience urbaine, dans cette qualité architecturale?
Ce qui est assez intéressant avec la Samaritaine, c'est la volonté qu'il y avait de révéler un patrimoine existant. Donc cette façade années 30, puis les façades Art Nouveau sur les côtés. Et puis quand même cet aspect, on va dire, plus actuel avec la façade de Sanaa, qui est une façade extrêmement technique, en fait, puisque c'est une triple peau. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est dans des... Justement, les espaces commerciaux concentrent aussi un certain nombre de contraintes, entre guillemets, qui sont des contraintes en termes notamment de sécurité incendie, bien sûr d'accès au public, puisqu'on est des établissements recevant du public. Donc, c'est des questions essentielles.
Est-ce qu'il y a beaucoup de centres commerciaux qui se construisent aujourd'hui avec la résilience urbaine dont tu as parlé?
Alors, il y en a. Pour citer un exemple, il y a le centre de la mode qui a été fait par Arte Charpentier à Shanghai, qui était donc une ancienne usine. Et il y a eu toute une volonté de la part des architectes de rénover et de réhabiliter un patrimoine existant et aussi de réhabiller certaines peaux pour notamment intégrer du commerce et différents types de programmes comme du bureau, etc. Donc oui, il y a des projets en cours et aussi d'autres projets sur lesquels nous, on travaille au sein de l'agence de plus grande ampleur. Mais voilà, c'est aussi dans des temporalités. Enfin, je veux dire, je pense que c'est des questions éminemment actuelles. Donc les projets vont émerger aussi dans les prochaines années, je pense.
Alors, dans ta thèse très opérationnelle, tu vas choisir donc des projets pour baser donc ton étude. Comment tu crées cette typologie de projets? Comment tu les choisis?
comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a une première partie de ma thèse qui est sur la définition de ce qu'est un centre commercial. Donc là, c'est assez pratique, on va dire, pour moi, si je peux m'exprimer ainsi, de choisir mes études de cas, puisque je peux les définir en fonction d'un certain nombre de typologies que j'ai présélectionnées en amont, qui sont des rapports à l'urbanité et des rapports au flux, principalement. Par contre, la difficulté, entre guillemets, que je vais avoir, c'est que comme je travaille sur du projet en train de se faire, et ça c'est une deuxième partie, on va dire, une autre partie de ma thèse, je m'appuie sur les projets que je peux suivre en tant qu'architecte au sein de l'agence. Et là, c'est la particularité aussi de la CIFRE, on est en lien et on est aussi, oui, on est en lien avec l'accès à la commande. Donc, tout dépend du type de commande qu'on peut recevoir. Et donc là, je suis beaucoup plus liée au projet qu'on a à l'agence à un instant T.
Et tu vas réaliser aussi des études de cas? C'est ça, tu veux en réaliser 3, tu viens d'en réaliser une. C'est quoi l'objectif?
L'objectif, c'est en fait de définir, on va dire, des ingrédients ou des types de méthodologies à mettre en place. Et donc pour ça, on a évoqué ce qui faisait la ville, cette notion de fabrique de la ville, qu'est-ce que c'est? Et moi, je m'intéresse aussi donc, aux différents types de méthodologies qu'on peut mettre en place dans la conception. Je m'appuie là-dessus, par exemple, sur le Grand Prix d'urbanisme Ariel Amazbongui, qui s'est beaucoup interrogé sur ces questions-là. Et donc, mes études de cas portent à mettre en relation des postulats et des hypothèses que j'ai avec la réalité d'un terrain.
Et donc, tu as déjà réalisé une étude de cas. C'était donc pour définir un projet de méthodologie de l'application de la loi RSE pour un centre commercial dans les Yvelines.
Donc, c'est un projet que j'ai suivi pendant six mois, qui est un projet de rénovation de centre commercial avec une volonté forte de la part du maître d'ouvrage de mettre en place donc, un dispositif de responsabilité sociétale des entreprises qui est, pour le définir rapidement, une application de la notion de développement durable à l'échelle d'une entreprise, donc c'est-à-dire avec les trois piliers que sont l'environnemental, l'aspect social et l'aspect économique. Et donc moi, j'ai utilisé ce critère-là principal pour définir au sein du projet que j'allais suivre comment cet élément-là allait jouer sur la prise en compte qu'on pouvait faire vis-à-vis des usagers et vis-à-vis de la production du projet.
Et donc, cette étude de cas donc, que tu as menée dans ce centre commercial, c'était une démarche très participative en créant des ateliers, c'est ça, à la fois avec les commerçants, mais également avec les clients?
Oui, exactement. Donc, on a défini des acteurs qui étaient importants pour le projet en intégrant cette notion de concertation qui nous semblait vraiment primordiale. Et ensuite, on a réalisé un certain nombre d'ateliers avec notamment Nathalie Leroy qui est paysagiste et qui connaît très bien ce type de dispositif qui les a mis en place à de nombreuses reprises chez Arte Charpentier. Donc voilà, on a défini ces acteurs, mis en place ces ateliers et réalisé donc à partir d'hypothèses qu'on faisait sur le projet et sur le ressenti qu'on avait du centre commercial de l'objet actuel, on a mis ça en relation avec les attentes et les besoins des usagers.
Donc ce travail a duré 6 mois, il est désormais donc fini. Qu'est-ce que tu retires de ce travail? Quels sont les enseignements? Il y a des choses qui t'ont surpris?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était de voir qu'en fait, en fonction des usagers qu'on avait, donc habitants, associations de personnes à mobilité réduite, commerçants, employés de commerçants, il y avait vraiment des attentes qui ressortaient et qui étaient très précises. Pour donner juste quelques exemples, les employés des commerçants nous ont dit, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir de l'espace extérieur pour avoir une qualité d'espace extérieur qui va nous permettre de déjeuner en extérieur et de profiter de nos temps de pause. Pour les commerçants, c'était plutôt le fait d'inviter à la flânerie des usagers. Et pour les usagers et les habitants, c'était au contraire une sorte de volonté de pouvoir aller droit au but et de se diriger très facilement dans le centre. Donc ça, c'était assez intéressant de voir ces envies et ces perceptions qui ressortaient de manière très forte.
Dans ce travail, vous avez également interrogé des associations, donc PMR, personnes à mobilité réduite. Là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui ressort de ce travail?
Oui, tout à fait. Donc, c'était très intéressant de voir que pour ces associations, l'élément principal qui ressortait, c'était de pouvoir préparer en amont sa visite avant d'aller sur le centre. Et pour ça, il fallait que sur le site internet, l'accès soit extrêmement clair. Donc c'était la lisibilité numérique qui est ressortie, principalement.
Alors, cette thèse, donc, tu l'as commencée il y a 9 mois. Elle va se terminer bientôt.
Bientôt, pas tout à fait encore. Novembre 2023, voilà.
Comment ça se passe? Tu gères bien le temps?
C'est la principale, on peut dire, difficulté qu'il peut y avoir en chiffres. C'est la gestion du temps et le jonglage qu'on peut faire entre une pratique au sein d'une agence et puis le travail qu'on fait avec les laboratoires. Donc j'essaye de gérer au mieux.
Qu'est-ce qui t'a passionné dans ce travail des centres commerciaux?
Ce qui m'a passionné, c'est tout d'un coup d'avoir un espace de potentialité urbaine absolument considérable. C'est-à-dire que ces espaces dans le périurbain rassemblent des réserves foncières considérables. Et donc là, je pense que dans des logiques écologiques qu'on a aujourd'hui, demain, faire du projet à grande échelle, à mon avis, il se fera là. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a la ville sur la ville et il y a d'autres types de dispositifs. Mais là, je pense qu'il y a vraiment des enjeux pour nous, architectes et urbanistes.
Tu peux nous décrire le centre commercial en 2050 ?
Alors, à mon sens, je pense qu'il y aura deux grandes tendances. Une première qui va être une diffusion complète du centre commercial dans la ville. On le voit déjà, il y a, par exemple à Bordeaux, dans la rue Sainte-Catherine, on a toute une partie qui est en rue piétonne et qui est gérée par un seul gestionnaire, par exemple. Donc ça, à mon avis, ça va être une grande tendance de fondre ça avec du multiprogramme, etc. Et à mon avis, une seconde tendance, qui est peut-être un peu plus dystopique, c'est d'imaginer qu'on aura peut-être des pandémies à répétition et que pour s'évader au plus proche de chez soi, on ira peut-être dans un centre commercial faire 1000 choses, et notamment du loisir, qui sont déjà des tendances qui existent. Après, à voir comment on intègre les problématiques écologiques à tout ça.
Le mot centre commercial n'existera peut-être plus ?
Non, on parlera certainement de quartier.
Merci beaucoup, Sophia, pour cet échange tout à fait passionnant.
Merci, Jean.
J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je mettrai en ligne des informations liées à cet épisode sur le site de l'agence Plus d'idées, à la page Le Podcast. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur la plateforme radio.style et Habitascopie, et bien sûr sur vos plateformes d'écoute préférées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à diffuser ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-le vivre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook de Nouveaux Territoires et au compte Twitter pour suivre l'actualité de ce podcast. Et si vous avez des idées de sujets, des questions ou des observations, retrouvez-moi sur le site agenceplusdidées.fr ou .com. À très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous.